Flavie à Robertine, 15 avril. Ah, ma chère, un événement ou un rêve. Il était temps, je m'ennuyais à périr. Je boudais Lady Rosemonde et mes amoureux me boudaient. J'étais complètement gloomie. Voilà que je recommence à rire. Imagine-toi que ce matin, m'étant par hasard éveillée de bonne heure, j'ai vu un mulet dans la cour, et sur ce mulet des caisses, des paquets, qui m'ont fait penser aux colporteurs ou marchands de curiosités rencontrés à Vallombreuse. Des pies, du foin ou des pierres. Ils appellent ça des curiosités. Je me doutais bien que ce personnage avait réussi à s'aboucher avec mon père. Et j'attendis pour m'en convaincre, car tu sauras que mon pauvre papa me fait grand mystère de sa rechute ornithologique et pense m'attraper. Au bout d'un quart d'heure, je vais sortir le quidam, mais non pas tel qu'il m'était apparu dans sa toilette de promenade. Il était assez pittoresquement enveloppé d'un grand plaid, et son visage m'était caché par un chapeau de montagnard orné d'une plume d'aigle. C'était comme qui dirait son enseigne, mais était-ce bien le même homme sans gants? Il avait des gants, justement, et son mulet n'était pas le même mulet, à preuve que je m'étais divertie de ce que cet animal n'avait qu'une oreille et que celui-ci en a deux. Je me défends de toute notion d'histoire naturelle. Je ne crois pourtant pas que les oreilles des mulets repoussent, surtout en aussi peu de temps. Que te dirais-je? Mon imagination fut frappée de je ne sais quelle lueur, fantaisie ou clairvoyance. Je m'écriais en moi-même que c'était la Malcolm, déguisée en marchand d'oiseaux. Pourquoi non? J'ai oublié de te dire que Malcolm est fort jaloux et qu'il est parti à la suite de quelques mots un peu aigres échangés entre nous à propos du marquis G. Malcolm me passe d'être coquette avec ceux qui veulent ou peuvent me demander en mariage. Il est scandalisé de me voir rire et causer avec un homme marié. Il ne comprend pas qu'on s'amuse de la jalousie d'une femme sotte. Enfin, malgré sa timidité naturelle ou sa réserve de commande, il m'a lancé une épigramme. J'ai riposté, il a répliqué. J'ai eu de l'esprit, mal à propos peut-être, si bien qu'il est parti. Mais il n'a pu y tenir. Il est revenu et il se cache aux environs pour m'observer. Et mon père est dans la confidence, et nous allons nous amuser. Une aventure, enfin, à la bonne heure. Si c'est ainsi que Malcolm veut s'y prendre avec moi, nous serons bons amis, car j'adore tout ce qui sort de la routine, tout ce qui occupe l'imagination sans compromettre la paix du cœur. Pourtant, comme tout ce que je me disais là pouvait n'être qu'une pure rêverie, j'entrais tout doucement chez mon père pour l'interroger plus ou moins adroitement. Malheureusement, j'ai la vue si basse que j'allais donner du pied dans un grand coffre qui fit du bruit, et mon perfide papa eut tout le temps de composer son visage et de paraître absorbé par la lecture de son journal. Toutes mes questions furent perdues. L'homme qui venait de sortir lui avait proposé des gilets de flanelle et du tabac de contrebande. Il ne savait pas seulement le nom de cet homme, ni d'où il sortait. Il ne comprenait rien à l'intérêt que j'y pouvais prendre. Enfin, papa joua très bien son petit rôle, mais pas assez bien cependant pour que je ne visse pas qu'il se moquait de moi. Alors il me vint une très belle idée, qui fut de suivre de loin l'homme et le mulet qui s'en allaient. Je pris mon chapeau de paille et mes yeux d'or, et me voilà parti, en ayant l'air d'errer au hasard dans la campagne déserte, mais en suivant très bien la piste de l'animal, et même en apercevant, par moments, le groupe qu'il formait avec son maître en descendant ou remontant les collines. Je jugeais, d'après la direction qu'il prenait, qu'il s'arrêterait à un petit village qui est caché dans un repli de la montagne, à une lieue d'ici. Et pour m'en assurer tout à fait, je grimpais sur une élévation d'où on découvre tout le pays environnant. Mais quelle fut ma surprise, style de roman, quand je vis très distinctement à mes pieds l'homme et la bête entrer dans une maison de paysans qui n'est pas à un quart d'heure de marche de notre villa. J'en voyais tout de suite ma fine mouche Gaïtena se promener par là, et au bout d'une heure, j'appris que le voyageur, inconnu aux paysans, à ce que le paysan proteste, mais je n'en crois rien, avait élu en ce lieu son domicile pour 8 jours. Gaïtena ne put l'apercevoir. Il faisait sa sieste dans la chambre qu'il a louée. Elle n'a vu que le mulet, qui a bien ses 2 oreilles. Je ne m'étais pas trompée. Donc, voilà un don qui te fera beaucoup rire, mais qui me paraît concluant. C'est Malcolm qui est là, caché tout près de moi, afin de surveiller mes démarches jour par jour et heure par heure. Comme je vais le faire enrager. 16 avril. Déception. Ce n'est pas Malcolm. C'est l'inconnu sans gants de Vallombreuse. Mais ce n'est pas le premier venu. Ce n'est pas un colporteur. C'est un ami déguisé de Malcolm qui est là de sa part pour guetter mes faits et gestes. Tu vas voir. Aujourd'hui, Lady Rosemonde était venue nous voir avec ses deux mésanges, c'est ainsi que j'appelle ses deux nièces, et, trouvant chez nous le marquis G, le petit abbé et M de S, j'ai proposé une promenade à pied et j'ai dirigé mon monde vers les prairies qui entourent la retraite de mon inconnu. Les deux petites Anglaises, Anne et Lucie, sont des oiseaux babillards et inquiets, s'extasiant sur tout, regardant l'Italie comme le paradis terrestre, courant toujours à droite et à gauche, sans savoir où elles sont ni avec qui. Lady Rosemonde les perd souvent de vue et s'impatiente un peu après elles, si bien que, dans un moment où elle était avec M de S, à la recherche de ces volatiles incommodes, je me trouvais entre l'abbé et le marquis. Il commence à faire très chaud et la marche devient désagréable. Je m'assis sur l'herbe pour attendre Lady Rosemonde et ces messieurs restèrent debout auprès de moi. Nous causions assez haut et très gaiement de la jalousie de la marquise quand je vis remuer un buisson de myrte à trois pas de nous. La parole expira sur les lèvres du pauvre marquis, lequel était en train de donner, ou peu s'en faut, sa moitié au diable et qui crut qu'elle était là aux écoutes. Je partis d'un rire inextinguible et l'abbé sauta comme un écureuil dans le buisson en disant « Qui va là ?»« Eh bien, qu'est-ce que ça vous fait ?» répondit en français une voix qui n'était pas celle de Malcolm et encore moins celle de la marquise. Et l'abbé, que je soupçonne de n'être pas très brave, fit un bond fabuleux en arrière, comme si la tête de méduse lui fût apparue au milieu des branches. Cette tête de méduse, c'était celle de l'inconnu. Elle n'était pas coiffée de serpents, mais elle n'en valait guère mieux, car elle était irritée, menaçante et presque belle à force d'être indignée. Il n'y avait plus rien de vulgaire dans cet homme, dont la mise m'apparut encore assez bizarre, mais qui, vu de près, peut être tout aussi bien un artiste qui voyage qu'un voyageur qui trafique. L'abbé en eut peur, et moi aussi, je l'avoue pour la première fois de ma vie, le regard d'un homme m'a fait trembler. Cela est fort extraordinaire, conviens-en, qu'une personne surprise en flagrant délit de curiosité et d'indiscrétion, pour ne pas dire d'espionnage, ait la spontanéité de la colère, au lieu de celle de la honte. Il faut que, pour descendre à cet espionnage, l'inconnu ait eu des raisons graves, étranges, et peut-être moins affreuses pour moi qu'on ne pourrait le penser. Comme j'étais devenue très pâle, le marquis et M de S, qui venaient d'arriver, et qui ne savaient encore de quoi il s'agissait, coururent à cet homme et lui demandèrent impérieusement ce qu'il faisait là. Il ne répondit rien, ramassa quelque chose comme une petite boîte et nous tourna le dos. Le marquis, persuadé que c'était un bandit qui nous avait épiés dans de mauvais desseins, voulut le questionner de plus près. Mais M de S, qui ne croit pas plus que moi à la possibilité d'un Français exerçant la profession de brigand en Italie, retint le marquis et se contenta de lui dire tout haut « Laissez ce malotru quitter la place ». L'inconnu se retourna, jeta sur le marquis et sur nous tous un regard de profond dédain dont j'eus certainement ma bonne part. Puis, haussant les épaules, il s'éloigna lentement et disparut dans les buissons. Le marquis était fort en colère. Il a le sang vif des Italiens et M de S eut quelque peine à l'empêcher de riposter à ce silence méprisant par des paroles imprudentes. M de S, qui était fort calme, se contenta de rester debout à la même place et d'attendre si le personnage se retournerait. Mais il ne se retourna pas. Et, comme je ne me souciais pas de voir finir sitôt le mystère qui me préoccupe, m'effraie et me divertit, je priais ces messieurs de venir avec moi rejoindre Lady Rosemonde, sans se préoccuper davantage d'un incident que je ne pouvais expliquer. Et, à présent, l'explique qui voudra, mais il est bien sûr qu'il y a quelque chose d'inouï entre cet homme et moi. Il me hait, et c'est lui qui me brouille avec Malcolm, ou bien, qui sait, je m'y perds. Lady Rosemonde, à qui l'on a raconté l'aventure, n'en a pris nul souci. Elle s'est mise à rire, disant que nous avions dérangé un homme qui dormait ou qui faisait des vers. Les mésanges se sont aussitôt montés la tête, et je gage que, cette nuit, entre deux draps, elles rêveront d'un jeune Orlando gravant un sonnet en l'honneur du doux nom de Rosalinde sur l'écorce des myrtes nains de la montagne. Je leur ai en vain remontré que c'était fort invraisemblable, et qu'on ne se mettait la tête dans un buisson ni pour dormir ni pour rimer. Elles y tiennent. Quant à l'abbé, il me conseille beaucoup de ne pas me promener seule autour de la villa, mais je crois que, si je le priais de m'accompagner en tête à tête, pour me protéger et me défendre au besoin, il serait médiocrement flatté de cette marque de confiance. 17 avril. Ma chère, je ne sais rien de nouveau sur l'inconnu. Il a plu aujourd'hui et je n'ai pu sortir à pied. Et puis j'ai eu autre chose à faire que de poursuivre ce roman. J'en ai découvert un autre, et je tiens peut-être le secret du départ de Malcolm. Je t'ai parlé des nièces de Lady Rosemonde. L'aînée est assez jolie, c'est celle qui s'appelle Anna. Elle est toute petite et toute fluette, blond filasse, et les dents longues, mais elle a des yeux bleus de mer qui sont expressifs, et sa petite personne souple ne manque pas d'une certaine grâce, moitié navre et moitié affectée, qui est drôle. Elle s'habille avec une ostentation de simplicité qui n'est pas de mauvais goût de la part d'une fille sans dot. Enfin, elle chantaille avec une petite voix très douce et un petit accent qui estropie ridiculement l'italien, mais qui n'est pas sans agrément quand elle dit des ballades iroquoises de son pays de Galles. Eh bien, cette petite personne s'est laissée percer le cœur par son beau cousin Malcolm, et j'ai deviné cela aujourd'hui, au moment où j'y songeais le moins. Je me trouvais seule avec elle et sa petite sœur Lucie, qui est une copie amoindrie et pointue de cette petite fleur étiolée, et qui ne la quitte non plus que son ombre, sifflant les mêmes mots, l'accompagnant au piano, lui refaisant ses boucles toujours déroulées et ne disant pas une parole sans s'écrier « Oh, dearest Anne !» Tu les vois d'ici, un médaillon à deux profils collés l'un sur l'autre, la plus petite derrière la moins petite. Pour le moral, c'est la même chose. Je suis sûre que, si Lucie, qui n'a pas 14 ans, se doute de la passion de sa sœur pour leur cousin, elle se persuade qu'elle doit briller des mêmes feux. Je te disais donc que je me trouvais seule avec ces petites et, pour tuer le temps, je les fis babiller. J'appris là leur histoire, dont je ne m'étais pas enquise jusqu'à ce jour. Elles sont orphelines, et leur tutrice n'est pas, comme je me l'imaginais, Lady Rosemonde, mais bien une vieille Anglaise qui n'est pas toujours la plus aimable des douairières. Ces fillettes s'étant trouvées toutes deux malades en Angleterre, Lady Rosemonde a demandé à les faire voyager pendant quelque temps. Elles sont donc en Italie avec elle depuis 5 ou 6 mois, et se disent à présent fortes comme des Turques. Mais le terme fixé par la tutrice est près d'expirer. Déjà nos mésanges soupirent, et gémissent à l'idée de retourner dans le brouillard. Je le comprends, vu qu'avec le brouillard, c'est la pauvreté qui leur tend les bras. Chez Lady Rosemonde, elles vivent dans le luxe, et la chère Anna n'eût pas été trop sotte si elle eût pu se faire aimer de Malcolm. Quel effet ou non ce calcul, elle se persuade qu'elle en est folle, et n'a pas vu sans désespoir que Malcolm s'occupait d'une autre qu'elle. Ceci a éclaté dans notre conversation, voici comment. Je lui demandais si elle savait où est Malcolm. « Non, répondit-elle avec candeur. Mais sa mère le sait bien. « Et vous aussi, vous le savez bien, s'écria-t-elle en devenant rouge comme une petite écrevisse, grâce à la transparence de cet épiderme anglais qui ne sait rien cacher. « Pourquoi le saurais-je ? Lui demandai-je avec un grand calme. « Parce qu'il est votre fiancé, répondit-elle en se jetant dans mes bras avec une impétuosité surprenante. « Avait-elle l'intention de me faire un aveu ? Je ne le crois pas. Je crois bien plutôt qu'elle s'imaginait bêtement me donner le change en m'accablant de caresses. Et les nerfs furent plus forts que la volonté. Les larmes vinrent. Je reculai involontairement, car on ne sait jamais à quoi s'en tenir avec ces personnes passionnées. Elles peuvent être tentées de vous mordre et de vous arracher les yeux en vous embrassant. Elle vit ma défiance. Et alors, toute suffoquée de pleurs, toute hors d'elle-même, elle fut assez gentille pour m'intéresser. « Oh, ne croyez pas, s'écria-t-elle, que je sois jalouse de votre beauté, de votre richesse, de votre bonheur. Je vous aime parce que vous êtes aimée de Lady Rosemonde et que vous la rendrez heureuse, j'en suis sûre. Elle ne m'a rien confié, mais j'ai tout deviné, je remercie Dieu s'il donne à la meilleure des femmes la plus aimable des filles. Et Malcolm, lui dis-je en souriant, nous n'en parlons donc plus. Vous ne vous intéressez donc pas autant à son bonheur qu'à celui de sa mère. Malcolm, Malcolm, reprit-elle avec résolution en essuyant ses yeux et en tâchant de sourire. Je ne le plains pas, je le félicite. Ma chère, lui dis-je en lui prenant les deux mains, c'est très bravement dit, mais j'aimerais mieux la vérité. Soyez sincère, je le serai aussi, et vous n'aurez pas à vous en repentir, vous verrez. Je ne pus pas la confesser, mais sa joie fut si évidente quand je lui eus dit que je ne connaissais pas assez son cousin pour l'aimer, et qu'il n'y avait pas d'apparence que je le voulusse épouser, que je n'ai pas eu besoin d'un aveu plus complet, et dès lors, ma chère Robertine, je n'ai plus qu'un désir et qu'une volonté, c'est de marier les deux cousins. J'y vais faire mon possible, et maintenant j'attends Malcolm avec impatience, afin de le bien dégoûter de moi. Le dépit lui fera ouvrir les yeux sur les mérites de la mésange, et, si j'ai quelque influence sur Lady Rosemonde, elle donnera son consentement. Ah, dira-t-on encore que je suis égoïste, coquette, mauvaise? Non, ma chère, je suis généreuse au contraire, c'est mon plus grand plaisir. Et, si la marquise G au lieu de se faire ma copie d'abord et mon ennemi ensuite, eût eu confiance en moi et versé seulement une de ces pauvres petites larmes dont Missana a répandu un ruisseau à mes pieds, je l'aurais prise sous ma protection et j'aurais persuadé à son mari qu'elle est adorable. Je ne veux pas fermer ma lettre sans te dire quelque chose de l'inconnu, s'il y a moyen, demain. Prends ceci comme un journal.